Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour à tous et à toutes.
Aujourd'hui, auditrices et auditeurs de Radio Alpa, on va analyser et on va décrypter un phénomène très addictif, très populaire, hyper populaire même je dirais, et qui fait rêver le monde des K-dramas. Et Didier nous dira tout sur les corbeaux, animal fascinant qui mène parfois la vie dure aux Japonais.
Exactement, vous allez découvrir ça, c'est assez étonnant.
Terrible.
Oui, on peut dire ça.
Alors d'abord, petite définition. Un drama, c'est une série télévisée, le plus souvent d'une saison, avec plusieurs épisodes, 16 pour les dramas coréens. Ces séries sont appelées mini-séries, parce qu'il y a des séries qui n'ont qu'une saison, mais qui peuvent compter 50 épisodes.
D'accord.
Voilà, donc là, les mini-séries en ont 16 ou 20, mais c'est le plus souvent 16. Alors, ce format touche à tous les genres, espionnage, action, thriller, drama historique, qu'on appelle sagueuk, histoire d'amour, histoire de famille, récit de guerre. En fait, il y a tout de tout. Il y en a pour tous les goûts. En fait.
Voilà, c'est ça, c'est large.
C'est très large. Ce sont souvent des scénarios originaux, mais aussi des adaptations de manga, de webtoon, les Coréens sont champions en webtoon.
Ça, oui, on en a parlé déjà.
Et d'animé.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Alors, dans les dramas, jouent non seulement des acteurs professionnels, mais également des chanteurs, les idols, qui vont contribuer grandement à leur succès. Enfin, vous vous rappelez, chers auditrices et auditeurs, que les idols sont super doués, ils savent chanter, ils savent danser
ils savent
et jouer la comédie. Voilà. Alors, l'origine des dramas viendrait du goût des Coréens pour la dramaturgie, développée par les anciennes danses qu'on appelait Choyong, nées au royaume de Silla. Alors, Silla, c'était une centaine d'années avant Jésus-Christ, c'était avant la réunification de la Corée en un seul pays.
D'accord.
Enfin, maintenant, il y en a deux, vous me direz.
Mais c'était voilà.
Avant le 1945.
J'entends bien.
Alors, ces danses, destinées à la cour, racontaient déjà des histoires dramatiques. Puis, pendant la dynastie Joseon, la fameuse dynastie qui a régné de 1392 à 1910, jusqu'à l'envahissement de la Corée par le Japon, elles sont devenues un divertissement pour les paysans avec des histoires drôles, satiriques, qui tournaient en ridicule les classes supérieures et les religions.
D'accord. Ah oui, une satire.
Oui, c'était ça, les danses Choyong.
Et dit, alors, quand sont apparus les premiers dramas en Corée, en fait ?
Alors, ils sont apparus dans les années 60-70, donc ça remonte quand même à quelques années. Le premier était un drama historique en 1964, ça s'appelait A Far Away Country, un pays lointain.
Voilà, c'est ça.
C'était une romance tragique, avec des légendes, un peu loin des réalités historiques. À l'époque, les réalisateurs étaient confinés dans des studios, avec peu de moyens, ce qui les limitait beaucoup. Alors, puis dans les années 90, la popularité des sagueuk, donc les séries historiques, va un peu diminuer pour laisser place à des dramas modernes, pour plaire à un public plus jeune, avec de très bons acteurs, j'insiste là-dessus.
D'accord.
Alors, il y a un drama emblématique de l'époque, Sandglass, qui raconte l'histoire de la Corée des années 70 aux années 80. C'était les années de dictature, des années sombres aussi, encore. Hein, donc, des années, c'est récent, très récent, 1970-80. Alors, ce drama a permis aux Coréens de découvrir la vérité sur le massacre de Gwangju. Donc, c'est une ville moyenne dans le centre de la Corée.
Okay.
Et ce massacre de Gwangju était qualifié à l'époque par la dictature, les dirigeants, de révolte communiste, alors qu'il s'agissait en fait d'une révolte démocratique.
Bon, faut bien dire ce qu'on veut.
Donc en fait, c'est un drama qui a, on va dire, enseigné l'histoire aux Coréens.
Dénoncé.
Et donc, c'est un drama sur lequel on peut vraiment s'appuyer, qui s'est appuyé sur des faits véritablement historiques. Alors, dans les années 2000, les dramas coréens étaient plutôt larmoyants, voire très larmoyants. Il y en a un qui est mondialement célèbre, mais qui, voilà, qu'on peut peut-être trouver sur YouTube, j'ai pas cherché.
D'accord.
Mais il n'est pas sur le N, ni sur Disney, ni sur Viki.
D'accord.
C'est Winter Sonata. très 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 célèbre, et on peut dire que ce Winter Sonata est à l'origine de la fameuse vague Hallyu. Alors ces dramas étaient très populaires en Corée et dans toute l'Asie, hein. Ça dépassait largement les frontières de la Corée. Et ça avait une particularité, il y avait beaucoup de flashbacks. Bon, ils n'avaient pas beaucoup de moyens au début, ça permettait de rallonger la durée d'un épisode sans augmenter la durée du tournage.
Ouais, ça fait du tournage à pas cher.
Voilà. Mais il y en a toujours des flashbacks.
Oui.
Voilà. Et d'accord. Ça aidait à la compréhension tout en augmentant l'émotion.
D'accord.
Alors,
eh bien, et c'était principalement quoi, des mélos ?
Oui, à cette époque, les thématiques n'avaient qu'un but, faire pleurer. Alors, il y avait des histoires d'échanges de bébés à la naissance, histoires d'amour impossible, des secrets de famille, des accidents, des maladies. Et dans les mélodrames coréens, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, la vie ne fait pas de cadeaux.
D'accord.
Mais aujourd'hui, on parle de comédie romantique et c'est moins lourd, avec un happy ending presque de rigueur à la demande d'un public qui en avait un petit peu marre de souffrir.
On peut les comprendre en même temps.
Voilà. Alors, pour s'aligner avec les réactions du public, les dramas seront de plus en plus tournés dans des conditions live, avec des scripts parfois donnés quelques minutes avant le tournage lui-même, à quelques jours de la diffusion. Bah oui, pour être très raccord avec les attentes du public.
D'accord.
Voilà. Et puis, les dramas ont continué à évoluer, à s'enrichir de nouvelles thématiques avec l'augmentation des moyens financiers pour leur réalisation. Maintenant, c'est carrément des budgets, enfin, je dirais pas hollywoodiens,
mais
qui n'ont rien à voir avec le début.
C'est ça, on n'est pas dans le bricolage, on est dans un truc très très pro.
Ah oui, très très pro,
bien travaillé.
Et puis, l'apparition des chaînes câblées va faire le succès.
Ah,
bon Didier, tu nous as prévu une superbe pause musicale d'une série qui s'appelle A Chemie of Souls, qui est vraiment une super série, alors moitié fantastique, moitié historique. Très magnifique, c'est Scars Leaves Beautiful Trace.
D'accord, il y a longtemps qu'on avait eu magnifique, mais c'est parti.
Mais c'est vrai.
Effectivement, c'est une très très jolie chanson.
Merci.
La Chemie of Soul.
Merci.
Oui, moi j'ai bien aimé aussi. Donc, du coup, vous êtes toujours avec Asialogie sur 107.3 Radio Alpa. Mais aujourd'hui, dis-moi, c'est quoi qui fait le succès des dramas en France et partout dans le monde comme ça ?
Oui, c'est vrai, on pourrait se le demander. Parce que du coup, C'est pas si vieux que ça, ouais. La vague Hallyu en France.
Hein. D'accord.
Alors, plusieurs facteurs de réussite. Tout d'abord, ils traitent les dramas, traitent frontalement les inégalités sociales et les problèmes de la société, bah, comme la corruption, le harcèlement scolaire, l'endettement, la concurrence acharnée ou la pression sociale et professionnelle. Donc ça, c'est en Corée, mais bon. Si on, ouais, on peut extrapoler,
trouver, oui,
hein.
Ça. Voilà. On trouve ça partout.
Alors, il ne faut pas oublier qu'en Corée du Sud, ces problèmes sont quand même plus importants.
Plus marqués.
Plus marqués, c'est ça, c'est exactement le terme. Plus marqués. Alors, c'est un pays, il ne faut pas l'oublier, qui a connu la colonisation japonaise pendant 45 ans, la famine, après la décolonisation japonaise, il y a eu la guerre de Corée, avec la famine, la guerre et... Après tout ça, une croissance fulgurante et donc on ne s'en sort pas indemne. Donc c'est vrai que c'est un pays qui possède un taux de suicide qui est le plus important des pays de l'OCDE. On l'a déjà dit.
Oui,
voilà. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on est malheureux. Mais il y a certaines personnes qui souffrent plus que d'autres et qui se suicident. Alors par exemple, il y a une super série que beaucoup connaissent, c'est Squid Game.
C'est ça.
Dans Squid Game, la plupart des joueurs sont endettés à vie. Et le jeu est la métaphore de la compétition à mort dans la vie réelle. Et il y a beaucoup d'autres séries qui font une critique du pouvoir en général et font écho à ce que nous vivons en Europe. Alors la BO, vous écoutez, je pense, chers auditeurs, une belle BO derrière. C'est la BO de Empress Ki. Qui est une super série de 52 épisodes exactement, une série historique que je vous recommande particulièrement.
C'est une fan.
Oui, je suis fan de cette série. Empress Ki.
D'accord.
Voilà.
Bon, eh bien.
Oui, Didier, oui, il y a des belles BO dans.
C'est ça, mais bon. C'est pas les seules particularités quand même, j'imagine.
Non, c'est pas les seules particularités. Il y en a d'autres. Il y en a une sur laquelle je vais insister. Il n'y a pas de super-héros dans les K-dramas.
Bon.
Les héros sont normaux et sont dans la réalité. Ils nous offrent leur intimité, partagent en détail leur quotidien. Et c'est ça qui nous touche, Didier.
C'est ça, voilà, comme on peut... C'est un
on
miroir.
On s'attache aux personnages. Voilà, mais oui, tout à fait. On mange avec eux, on dort avec eux. Oui, on choisit leurs vêtements.
Ça finit par être intrusif, tout ça, quand même.
Je sais pas. Non, c'est très pudique.
D'accord.
Enfin, en tout cas, ça parle
d'histoire. Mais on peut s'y attacher parce qu'ils nous ressemblent. Voilà.
C'est ça, exactement. Ça parle d'histoire personnelle et de revanche sociale et ça nous rassure. On a de l'empathie pour les personnages.
Je comprends bien.
On s'attache à eux. La pauvreté et l'inégalité décrites dans ces séries sont une réalité qu'on a un peu oubliée en Occident, alors qu'elle existe aussi.
Oh oui.
Et elle nous est montrée dans les séries coréennes.
D'accord.
Alors, ces dramas ont un message universel, tout en proposant une réflexion coréenne, optimiste sur la collectivité, ce qui change avec nous, et sur la dimension du bonheur. Contrairement aux séries télévisées américaines, le héros qui sauve la planète n'existe pas. La force vient du « nous » plutôt que du « moi ».
D'accord. Oui, j'aime bien.
Oui, moi aussi. On vit des moments difficiles actuellement et on aspire à s'évader. Alors les dramas, je dirais, le permettent sans qu'on soit dupe. On regarde des dramas pour être réconforté et pour avoir une autre vision de l'amour et du monde, tout en apprenant beaucoup d'une autre culture sans avoir à prendre l'avion, Didier.
Ça, c'est éco-responsable en même temps.
Ah,
voilà.
Exactement.
Que nous racontent les dramas, en fait, concernant l'amour, par
Alors,
contre.
Beaucoup de choses qui remettent en question notre vision occidentale hyper-sexualisée. La façon de représenter l'amour et la masculinité dans les K-dramas est une autre raison de leur succès mondial.
D'accord.
Voilà, la chasteté apparente et le romantisme des héros, l'absence de scènes de sexe, font qu'ils sont regardés dans des pays qui ont une morale stricte, notamment dans les pays musulmans.
Oui, bien sûr.
Alors, la représentation d'une masculinité douce et idéale est rassurante pour beaucoup de femmes et pédagogique pour les hommes qui les regardent.
Si c'est pédagogique, alors ?
C'est prouvé.
Mais tant mieux, tant mieux.
Alors, les dramas nous offrent une alternative à la virilité triomphante qu'on voit dans les séries américaines.
À force, ça devient bon, voilà.
Mais il faut noter que cette vision renforce les stéréotypes racistes de l'homme asiatique qui serait moins performant.
Oh, ça, c'est un peu dommage, oui.
Ben oui, c'est dommage, mais c'est une triste réalité aussi.
Oui, oui, c'est vrai.
Alors, dans ces séries romantiques, ce n'est pas la sexualité qui crée l'intimité, mais les sentiments et la tension pour l'autre.
D'accord. Y a donc un peu de contact physique dans la vie des adultes coréens dans les séries, alors.
Oui. Oui, tout à fait. Il faut savoir que les Coréens n'ont pas l'habitude de se serrer la main et encore moins de s'embrasser pour se dire bonjour. Oui. Déjà, ça, c'est une très grosse différence.
Pour avoir eu des amis proches coréens, effectivement, fusions. Hein.
Voilà, c'est pas les fusions. Mais ceci dit, ils sont quand même très chaleureux malgré tout.
Oui, ça n'empêche
pas. Alors, pour se saluer, ils se contentent d'une inclinaison de la tête plus ou moins marquée. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs dans le scénario pour que le héros, l'homme et la femme le plus souvent quand même, finissent par se toucher, se tenir par la main et s'embrasser sur la bouche. Ce qui arrive parfois seulement au dernier épisode.
Ah là, il faut attendre quand même.
Mais oui, mais c'est bien d'attendre.
D'accord, ok,
voilà.
Okay.
Et le simple fait de se tenir par la main est un grand pas dans le fait de sortir ensemble en Corée, il faut le savoir.
D'accord.
À tout âge, hein.
Ok.
C'est pas que les ados, hein.
D'accord, d'accord.
Alors parfois, les héros dorment ensemble, mais habillés. Il est extrêmement rare de voir des corps dénudés. Au mieux, on aura le dos ou le torse du héros masculin, forcément très beau, pendant 2 secondes sous la douche. C'est ce qui change beaucoup par rapport à ce qu'on voit sur nos écrans, des séries françaises, ou même d'Amérique latine.
C'est ça, c'est différent. Ah, on peut dire que les dramas coréens nous font réfléchir sur nos comportements, alors.
Ben, oui, moi je dirais ça. Je trouve que les dramas coréens ont une action pédagogique au travers de nombreux clichés récurrents. Je parle de la masculinité douce qui peut être un modèle, très apprécié des femmes. voilà. Mais on peut dire que les scénaristes sont plutôt moralisateurs. Alors, je dirais moralisateurs, j'ai pas trouvé d'autres termes. Ils expliquent ce que c'est que de bien faire.
Voilà,
sur certains sujets de société sur lesquels nos films et séries françaises n'insistent pas du tout de la même manière. Par exemple, alors là c'est des petits exemples, les gentils héros des séries mettent systématiquement leur ceinture de sécurité et éventuellement celle de leur petite amie.
Ah, ils sont prévenants.
Voilà, et ils vont téléphoner, mais ça on en avait déjà parlé, Didier, pour avoir un chauffeur qui ramènera la voiture quand ils sont sous.
Ouais, ça c'est plus qu'une bonne idée.
Voilà, ils picolent pas mal, donc tout est organisé là-bas en Corée.
Okay.
Alors par contre, concernant la consommation d'alcool, ça peut nous surprendre.
Oui.
Ils sont beaucoup moins stricts, car l'alcool n'a pas la même image qu'en France.
Je ne suis pas surpris de ça. Oui.
En Corée du Sud, boire avec des amis ou des collègues, c'est plutôt une manière de faire retomber la pression, qui est très forte, ne l'oublions pas, et de dire des choses qu'on n'oserait pas à jeun. Et ça, c'est quelque chose qui permet, dans les dramas, c'est un truc en fait, qui est utilisé pour découvrir les sentiments d'un personnage qu'on aurait du mal à découvrir autrement.
D'accord.
Voilà, on fait, il y aura une scène où le héros ou l'héroïne va boire un petit peu plus que de raison et va se révéler.
D'accord.
Voilà, c'est un truc, on va dire.
Ok.
Alors, c'est pour ça, donc, qu'il y a des nombreuses scènes dans les dramas où le héros, toujours adulte, je le précise, se retrouve à boire déraisonnablement du soju, du vin ou de la bière.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des sujets, alors, peu abordés,
finalement ? Non, mais il y a un sujet qui est éludé. Ça rejoint une de nos émissions quand on avait parlé du statut des femmes en Asie. Hein, dans la plupart des dramas, l'histoire s'arrête avant le mariage.
Et pourquoi ça ?
Bah parce que la suite de l'histoire serait trop souvent synonyme d'un abandon par la femme de sa carrière professionnelle et d'un enfermement dans les tâches ménagères, ce qu'elles refusent de plus en plus, les femmes coréennes.
Bien sûr, on les comprend.
Voilà, il ne faut pas oublier que les dramas sont censés nous faire du bien.
C'est ça.
Voilà. Alors pour terminer, je vais vous faire quand même quelques recommandations.
Oui.
Les meilleurs dramas sont, alors c'est peut-être pas exhaustif, je dirais sur Netflix, mais il y a aussi... Il y en a sur Prime Video, c'est pas cher, Prime Video.
D'accord.
Il y a Viki qui peut être gratuit avec les pubs, 5 euros par mois sans pub.
D'accord.
Et bien sûr, Disney+, c'est pas forcément celui vers lequel j'irai en première intention.
D'accord. Ah,
voilà. Alors, trop difficile de recommander des séries. Le mieux, c'est de lire les critiques.
C'est ça.
Je pense d'écouter Asialogie, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Et puis de se lancer. Et puis, c'est vrai, faire comme avec les livres. Si une série, au bout d'un épisode ou deux, ça convient pas, faut laisser tomber.
Bien
sûr. Et puis, il y en a tellement.
Oui,
forcément
là,
on tombera une, mais il faut lire les critiques.
Oui, c'est ça, et puis faire son petit marché et trouver ce qui fait envie, et puis voilà.
Voilà, il y en a plein quand même.
C'est ça, exactement.
Alors, une pause musicale, Didier, s'il te plaît, j'ai envie, moi, d'écouter Jimin de BTS, c'est With You.
Voilà, c'est parti.
You will live forever in
Didier, merci de nous avoir mis With You de Jimin. Désolé Jimin, on a un petit peu réduit la chanson. J'espère que les fans de Jimin ne seront pas trop déçus.
Ouais.
Mais bon, on avait envie de t'entendre, Didier, nous parler des corbeaux.
C'est ça.
Qui sont devenus mal aimés au Japon, alors que finalement, ils sont quand même sacrés dans le shintoïsme.
Ah, ça, oui. Oui, oui. Si vous allez au Japon, forcément, vous aurez affaire aux corbeaux, les karatsu. Ils sont aussi nombreux que nos pigeons, mais comme ils sont très intelligents, les humains ont parfois des difficultés à vivre avec eux.
Oui, c'est vrai que les pigeons n'ont pas trop de mal en dehors des cacas.
Alors le karatsu, il a conservé cette image d'oiseau que l'on respecte, mais on le voit aussi comme un nuisible. Il faut savoir qu'au Japon, pour les déchets, il n'y a pas de conteneur comme chez nous.
Mmh.
Chaque jour, les Japonais placent leurs sacs poubelles sous des filets, pour éviter que les corbeaux ne viennent tout éparpiller.
Oui, c'est une autre méthode.
Voilà, c'est ça. S'ils ne font pas, c'est la catastrophe. Vous imaginez bien, toutes les ordures se retrouvent partout sur la voie publique à cause de ces corbeaux.
Oui, c'est pas agréable. Alors, en quoi ils sont différents de nos corbeaux, les corbeaux japonais ?
Alors, ils le sont, parce que c'est des espèces présentes au Japon qui sont particulièrement imposantes, pouvant atteindre 60 cm.
Oui, c'est grand.
Oui, c'est pas tout à fait petit, tout d'abord. Soyons clairs, le mot corbeau, c'est un terme général qui désigne 47 espèces dans le monde, parmi lesquelles les corbeaux, les corneilles, les choucas.
Oui, 47 espèces, ça fait beaucoup
voilà.
De corbeaux différents.
De différents, c'est ça. Donc, avec des différences de taille.
Combien on en trouve au Japon ?
Alors, au Japon, on en trouve 5, dont la corneille noire et le corbeau à gros bec présent toute l'année. Ce sont les plus gros et les plus envahissants. Alors, le corbeau représente 1,4% de son poids total, soit 10 fois plus que celui du poulet.
C'est important de le savoir.
Et voilà, c'est ça. Qui fait que lui, 0,12% de son poids. Pour l'humain, c'est 1,8. Donc, ça place le corbeau plus près de nous que l'on pense, en fait. Et
c'est
grâce
sûr.
À cette intelligence qu'ils savent depuis longtemps que vivre près des hommes leur assure la nourriture et le logis.
Alors, mais qu'est-ce qu'ils font de vraiment grave, ces corbeaux ? Parce que en dehors des ordures, là, pour l'instant, c'est pas trop gênant.
C'est embêtant. Mais bon, on peut trouver des parades. Non seulement ils répandent les ordures partout, comme tu l'as dit, mais ils font beaucoup de bruit avec leur croassement, ils souillent les murs de leur fiente. Mais le pire, c'est qu'ils sont responsables de crimes en plus de ces problèmes sanitaires. Par exemple, dans les étables, le corbeau à gros bec, il vole les grains de maïs, le blé mêlé à la nourriture des vaches, sans compter tous les insectes et les vers qu'il peut trouver dans l'état de fumier.
Ça irait
encore s'il se limitait à manger, mais il arrive qu'il s'attaque au pis des vaches.
Ah oui, ça
et des
c'est
lésions
pas cool.
provoquées par les coups de bec entraînent des inflammations du pis ou des hémorragies qui peuvent être très graves. Là, ça, forcément, on imagine bien que ça fâche un peu quand même. Dans les eaux, le corbeau trouve aussi une nourriture très variée. C'est un pique-assiette. Il ne se prive pas d'aller donner des coups de bec aux plus petits animaux, ce qui lui arrive aussi de blesser. Bref, il n'est pas bienvenu dans les eaux non plus.
Oui, il n'est pas sympa avec les autres animaux, en fait. Alors, que font-ils comme dommages matériels en plus de tous ces crimes qui sont quand même, des agressions, on peut le dire.
C'est ça, ça finit comme ça. Ce sont des vrais vandales, en fait. Les corbeaux causent de gros dommages aux compagnies d'électricité car ils construisent leurs nids sur les poteaux et les pylônes électriques, ce qui cause des pannes de courant. Là, ça chagrine un peu quand même.
Oui,
en 2018, une seule compagnie a ainsi retiré 15 880 nids. Ça coûte chaque année très cher au pays, du coup, finalement. Il faut savoir qu'à Tokyo, les corbeaux ne trouvent pas facilement de morceaux de bois et de paille. On voit bien la ville telle qu'elle est pour faire leur nid.
Très serré, oui.
Voilà, c'est ça. Ainsi, ils s'adaptent. Ils ont pris l'habitude de voler des cintres aux Japonais qui font sécher leur linge sur leur balcon pour remplacer les matériaux naturels par ces cintres. C'est pourquoi on peut voir des nids en porte-manteau sur les lignes électriques.
C'est trop drôle, ça.
C'est un peu rigolo. C'est une petite anecdote. Voilà. Il y a une autre anecdote amusante. En 1996, il y a eu un incident sur une voie ferrée. Des corbeaux y avaient déposé des pierres dans le but, pense-t-on, de se venger de la dégradation de leur nid. Incroyable, non ?
Oui, c'est vrai.
Pas étonnant quand on sait que les corbeaux sont capables de poser une noix sur la route pour briser la coque à l'endroit où les voitures sont supposées passer. Ils sont ingénieux.
Ingénieux. Et malgré ça, c'est un animal sacré au Japon. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Alors dans le monde entier, particulièrement au Japon, le corbeau a toujours été considéré comme un messager divin. Yata Garatsu est le corbeau sacré, car c'est lui qui a guidé Jimmu, le premier empereur du Japon.
Ah oui, le fameux
Jinmu. Dans sa conquête, car c'est ailleurs, d'ailleurs l'emblème de la Fédération japonaise de football aussi. On peut voir sur le maillot des joueurs japonais le corbeau à trois pattes. Deux des pattes sont à terre et dans la troisième, il tient le disque rouge du drapeau japonais, le symbole du soleil. Ces trois pattes représentent les cieux, la terre et les êtres vivants.
Alors, aujourd'hui, comment font les Japonais pour vivre le mieux possible avec eux, Didier ?
Bah, ils ont réfléchi, ils sont adaptés, ils ont mis des moyens en place, comme le ramassage des ordures ménagères la nuit avant le réveil des corbeaux. On a fait appel à la technologie. Un programme d'études du comportement des cris des corbeaux a permis d'expliquer leur mode de communication devant un danger. Alors, des scientifiques ont enregistré leurs cris spécifiques et ce message en langage corbeau est diffusé par des haut-parleurs couplés à un réseau infrarouge. Le tout installé sur des sites sensibles. Il paraît que ça marche.
Oui, près des poubelles,
dès que le détecteur
dit.
Repère le corbeau, hop, ça déclenche le cri du danger et ils s'envolent tout de suite. On les fait fuir.
Oui, on est quand même 0,4%, si j'ai bien compté, plus intelligent que lui.
Oui, c'est ça. C'est
la tout.
Marge est ténue.
La marge est ténue.
Bon, ben voilà, c'est comme ça.
La marge est ténue. Bon, Didier.
Oui.
Asialogie.
C'est fini.
Ah, mais
c'est
oui,
ça.
C'est okay. Déjà fini.
D'accord.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, avec grand plaisir.
Voilà, donc n'oubliez pas de visiter notre page Facebook, les amis. On attend toujours vos avis, vos suggestions. Ça nous fait plaisir.
Ah oui.
Alors, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Salut.
Voilà, on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.
お客様のご協力をお願いいたします。